Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h08 sur RMC et c'est reparti pour ce week-end des experts. Le jardin, la maison, la forme, la santé. On a parlé beaucoup de technologie dans ce rendez-vous forme santé. D'ailleurs, si vous venez de nous rejoindre, on vous invite chaudement à retrouver le replay de notre émission forme santé. On recevait le patron de WeSings, donc vous savez, cette pépite française de la santé connectée. Raphaël Grabli est toujours là. Rebonjour Raphaël.
Rebonjour François.
Et voilà ton heure à toi qui commence.
Oui. Et celle-là, elle est rien qu'à moi.
Voilà, elle est rien qu'à toi. La vie numérique, le samedi sur RMC, 9h-10h. Avec un spécial smartphone, c'est vrai qu'à quelques jours de Noël, on n'a pas encore vraiment statué sur les cadeaux. Et si on s'offrait un nouveau smartphone?
Oui, surtout qu'il y a une offre absolument pléthorique, comme tous les ans d'ailleurs. Mmh. Et puis, il y a aussi beaucoup de mouvements, je trouve, au niveau des marques. C'est en train de beaucoup bouger. Il y a la question Huawei qu'on va se poser. Il y a Samsung qui a une approche un peu différente à la rentrée. Il y a Apple qu'on ne présente pas. Il y a Google qui est vraiment très séduisant. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Et le tout, évidemment, avec l'arrivée des smartphones 5G. Et donc, on va en parler avec l'ami spécialiste des smartphones aussi chez Zeronet.com, Nicolas Lelouch, qui en plus est en train de tester des smartphones 5G à Nice, qui est l'une des premières villes 5G où il y a les réseaux Bouygues Télécom, SFR et Orange, si je ne dis pas de bêtises. Il est en train de faire des comparatifs entre tous ces réseaux. Donc, il va nous dire aussi, est-ce qu'un smartphone 5G en 2020, là où on a la 5G, évidemment, c'est vraiment intéressant.
Oui. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les premiers émetteurs 5G à Quimper. On aurait envoyé Nicolas là-bas.
Je ne sais pas pourquoi. Alors, en plus, je pense qu'il préfère peut-être Nice pour la météo, parce peut-être. Que Quimper, c'est très sympa aussi.
Mais Quimper est une ville formidable, bien sûr. Alors, on va retrouver Nicolas tout à l'heure avec Raphaël. Toutes vos questions smartphone, vous hésitez peut-être en cette fin d'année, vous avez envie de vous en offrir un nouveau. Vous ne savez pas quel modèle choisir, le 3216, l'appli RMC Direct Studio. Dans quelques instants, on évoquera aussi le jeu de tous les records, Raphaël, avec ce Cyberpunk 2077 qui vient de sortir, qui était très attendu. Ça fait combien d'années qu'on attend ce jeu?
Alors, il a été évoqué il y a quasiment 6-7 ans, pense, pour la première fois.
Je crois que le développement a mis 5 ans, non?
Quelque chose comme ça. Quasiment. Il a débuté, le tout début, même plus que ça. Ça fait 3 ans que c'est en promotion intense, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on a des vidéos, des extraits. Tu sais, il y a le fameux E3, le salon du jeu vidéo, où il y a eu des présentations de Cyberpunk l'année dernière, il y a 2 ans, absolument phénoménal. En plus, il y a eu le clin d'œil avec l'appui de Keanu Reeves, qui est dans le jeu. Keanu Reeves, évidemment, cette culture. Alors, la culture cyberpunk, c'est toute cette culture un petit peu virtuelle et un peu punk, voilà.
Donc, on en parle tout à l'heure de ce jeu. Exactement. Voilà, cyberpunk. Et pourquoi on vous en parle, Raphaël va tout vous dire dans un instant. Et puis, bien sûr, vos questions vie numérique, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Bienvenue. Et on accueille Laurent pour débuter.
Oui, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Bonjour, Laurent.
En fait, on cherche à remplacer un vieux PC de 17 pouces et une ancienne tablette Samsung Tab S. Et on rechercherait un PC transportable aux alentours de 15 pouces. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est de l'autonomie et que ça démarre vite et que ça soit relativement simple.
D'accord. Si je comprends bien, Laurent, vous cherchez un 2-en-1, vous cherchez un PC seul et une tablette seule?
Plutôt quelque chose qui regrouperait les deux. Un 2-en-1, ça serait bien.
Bah, écoutez, dans ce cas-là, alors oui, pour préciser ce que c'est qu'un 2-en-1, c'est-à-dire que c'est des PC qui sont pivotables, c'est-à-dire que l'écran, alors soit l'écran peut se détacher, soit il y a aussi des PC où l'écran peut pivoter et qui peut se mettre du coup en forme un petit peu chevalet, donc c'est assez pratique. Est-ce que vous avez une préférence là-dessus?
Chevalet plutôt.
D'accord. Et c'est quel est votre budget?
Entre 600 et 800 euros.
D'accord. Moi, je trouve qu'il y a une marque dans ces gammes-là qui est d'ailleurs accessoirement l'un des premiers, si ce n'est peut-être le premier vendeur, il me semble d'ailleurs, de PC portable au monde, c'est Lenovo. Ils sont très spécialisés là-dedans. Je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu ce qu'ils faisaient.
Si, j'avais vu Lenovo, le Yoga Slim 7 peut-être.
Exactement, alors ils ont pas mal de références, donc là-dessus c'est vrai qu'il faut aller voir un petit peu les tests de chaque produit, mais je trouve que dans cette catégorie de produits, Lenovo c'est un peu les mieux disants, parce que je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix déjà, parce que en fait comme Lenovo c'est le premier fabricant au monde, bah ils commandent des quantités plus importantes que les autres, donc leurs composants ils les touchent un peu moins cher, ce qui leur permet d'être un peu moins cher. Donc sur ce type de produit, moi je vous recommanderais franchement d'aller chez eux, parce que vous avez une offre, effectivement vous avez la gamme Yoga qui est très bien faite. En plus je trouve que le design est quand même plutôt joli, moi je trouve, chez Lenovo.
Ils ont de très très beaux
produits. Ils ont des ouais. très beaux produits. Ouais. Alors c'est voilà, avec un peu urbain, on va dire. Et je pense d'ailleurs que dans cette gamme de prix,
Yoga, non ?
Exactement, bien. C'est la gamme Yoga. C'est la gamme Yoga. Alors vous avez évidemment des produits assez chers. Ça peut monter évidemment très cher, mais vous avez des produits plus accessibles. Alors ce sera peut-être plus autour des 1000 euros. Donc il faut voir aussi en ce moment avec
des promos peut-être à droite à gauche.
Voilà, je pense il y a peut-être une possibilité de descendre à 800. En dessous, moi je recommanderais pas forcément, parce que vous allez vraiment impacter, je trouve, la durée de vie du produit. Et alors évidemment après ça dépend de son budget, hein, mais si on peut sur un PC, je trouve que et ça c'est un conseil de toute façon qui est assez général. Si on peut sur un PC passer par exemple de 600 à 800 euros, ça fait une très grosse différence, oui. En fait, en général.
Alors bon, 200 euros, c'est une somme.
C'est une somme, non.
Mais
oui.
Ça vaut peut-être différer de quelques semaines et d'économiser un peu plus.
Exactement. Alors c'est une somme qu'il faut pouvoir sortir en trésorerie, c'est vrai. Mais par contre, on va gagner en durée de vie. Donc c'est une économie.
Oui, c'est un investissement.
C'est un investissement. Voilà, si on peut évidemment se le permettre.
Voilà, Laurent.
Très bien, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci, Laurent.
Merci, Laurent. Et à très bientôt. Et on vous souhaite de faire le bon choix. Raphaël est là pour ça, hein. Profitez-en. Si tout comme Laurent, vous avez une question sur un achat d'un produit high-tech, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Il est temps de retrouver le tuto de Raph maintenant.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Et le tuto de Raph va être dédié aux jeux vidéo et à l'actualité du jeu vidéo du moment. C'est la sortie d'un jeu qui est très attendu, sans doute l'un des jeux vidéo les plus attendus.
Oui, Cyberpunk 2077. Alors,
exactement.
Comme je disais, ça fait des années qu'on en parle. Il y a une énorme. Alors franchement, je pense que c'est impossible de passer à côté si on vit dans une grande ville. Les bus, les trams, tout ce qu'on veut. Il y a une campagne d'affichage monumentale. Je sais pas si tu connais le budget de ce jeu, François.
Écoute, non, mais j'imagine que ça doit être stratosphérique.
C'est 300 millions d'euros, voilà.
300 millions d'euros.
C'est tout simplement l'un des jeux les plus chers de l'histoire. Ouais, c'est des budgets qui sont dignes du cinéma. Enfin, ça, de toute façon, les budgets de jeux vidéo dignes du cinéma, ça fait 10 ans que c'est le cas.
Bien sûr, je sais même pas s'il y a des films qui ont eu ces budgets-là, en fait.
Il y a eu, mais c'est très rare, peut-être les Avatar, les choses comme ça.
Ouais,
c'est des budgets de blockbuster, mais de toute façon, ça fait longtemps d'ailleurs que les jeux vidéo, en termes de qualité de scénario, de musique, ont largement rattrapé le cinéma
parce
en termes de talent.
Le business aussi, c'est qu'après chaque jeu vaut 70 euros.
Voilà, c'est la première industrie culturelle au monde, hein, le jeu vidéo, devant le cinéma d'ailleurs.
Donc après, c'est un business aussi.
Mais je vais donner un conseil, / un peu coup de gueule, on va dire, contre Cyberpunk 2077.
Donc qui est sorti sur des consoles traditionnelles.
Qui est sorti sur PC, sur PlayStation 4 et sur Xbox One, donc à 60 euros. Le problème, c'est que ce jeu, qui est censé être une merveille de design, notamment, c'est vrai, sur PC, à condition d'avoir un PC haut de gamme, c'est-à-dire un PC au moins à 1500, voire plutôt 2000 euros pour vraiment en profiter. Donc ça touche quand même très peu de gens. Mm-hmm. Et l'immense majorité des gens, je rappelle, il y a quand même en tout, je crois que la Xbox et PS4, ça doit être 150 millions de personnes dans le monde. Mais le problème, c'est que ces personnes ont accès à une version qui est vraiment décevante, qui n'est pas du tout optimisée pour ces consoles. Et alors, il y a qu'à voir les tests. Autant les tests de la version pour PC. Alors il y a beaucoup de bugs, mais ça va être corrigé par des mises à jour. C'est pas très grave, les bugs. Mais vraiment, ce jeu sur PS4 et Xbox One, on a l'impression qu'il a été un peu sacrifié. Or, le problème, c'est que ça concerne quand même la majorité des
bien
joueurs.
Sûr.
D'ailleurs, ce matin, en arrivant, je voyais une pub Cyberpunk derrière un bus. J'étais derrière le bus. Il y a écrit « parfaitement jouable sur PlayStation 5 ». et Xbox Series X. C'est-à-dire que même l'éditeur qui est Project CD vous dit, alors qu'il n'existe pas pour PS5 et Xbox, mais parce que comme c'est compatible, on peut jouer à la version PS4 sur PS5.
Mais il n'y aura aucune différence.
Alors, si le niveau de graphisme sera meilleur, parce que la console est plus puissante, mais enfin, faut se rendre compte quand même qu'on a un jeu absolument l'un des jeux dans les blockbusters où l'éditeur nous dit, achetez la version PS4, mais ne jouez pas avec ce jeu sur PS4, jouez-y sur PS5. Sachant au passage que la PS5, il y a pour le moment pas grand monde qui l'a et on peut pas la trouver. Donc c'est assez étonnant. Et moi, je suis un peu dubitatif. Je me demande si c'est quand même pas la partie plus marketing et commerciale et financière qui a poussé à fond pour cette sortie avant les fêtes de Noël, au détriment des joueurs et peut-être aussi au détriment des vrais créateurs de jeux. Je trouve ça un peu dommage. Alors, j'espère vraiment de tout cœur que ce jeu deviendra un excellent jeu avec le temps, avec des mises à jour. Quand il arrivera officiellement sur PS5 et sur Xbox Series X en 2021. Mais pour le moment...
Mais si tu l'achètes par exemple sur PlayStation 4 et que tu joues sur PlayStation 5, est-ce que tu auras droit à cette nouvelle mise à jour
gratuitement
avec ce jeu plus beau.
Oui, c'est inclus, bien
d'accord.
Sûr.
D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce jeu?
Alors, alors oui, je parlais très rapidement de la culture cyberpunk, donc c'est un peu cette culture à la Matrix, mais à la Blade Runner. Surtout, en fait, on a l'impression d'être dans Blade Runner. C'est-à-dire qu'on est dans une ville futuriste. Alors, c'est une ville californienne qui s'appelle Night City, qui est très, qui ressemble vraiment à celle de Blade Runner, où il pleut toujours, enfin pas toujours, mais enfin.
Oui, mais très sombre.
Très sombre. D'ailleurs, là, on vit plutôt la nuit. On a tous les joueurs et tous les. Alors, c'est une quête. Hein, c'est pas un jeu multijoueur. Hein, c'est vraiment une histoire où on va se gréer. Fait des puces, des nanopuces pour se perfectionner. C'est vraiment l'être humain augmenté. Donc on est d'ailleurs en plein dans 2020 avec ces questions de piratage d'humains augmentés, etc. Et évidemment au milieu du crime organisé, c'est un peu, il y a un peu une filiation aussi avec GTA. C'est un monde ouvert immense. Comme ça, donc c'est.
Mais moi, c'est un jeu d'action, en fait, de réflexion. C'est.
Non, enfin réflexion, c'est plutôt action quand même. On va pas.
D'accord.
Non, mais le jeu en lui-même est remarquable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai une PlayStation 4 ou si j'ai une Xbox One, malheureusement, si j'achète ce jeu 60€, je vais être déçu, voilà, parce que le niveau de graphisme, il est très mal optimisé. On a l'impression qu'ils ont un peu sacrifié cette version. Et je trouvais ça important de le dire parce que c'est peut-être l'un des cadeaux qu'on a envie de faire sous le sapin. Faudrait pas faire trop de déçus. Et finalement, ce titre, j'espère que sur le long terme, il révélera toutes ses qualités. Mais dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Pour les fans, à ce moment-là, si vous prévoyez d'acheter une PlayStation 5, attendez, vous achèterez la version PlayStation 5 parce que la version PlayStation 4, elle est pas terrible. Et après, bon, vous pouvez toujours l'acheter et puis ça sera converti gratuitement en version PlayStation 5. Mais je trouve que finir le jeu dans ces conditions, c'est pas forcément recommandé. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Pour un titre qui est, franchement magnifique, avec une ambition monumentale. D'ailleurs, ils s'y trompent pas puisque les investisseurs c'est Project CD, c'est un éditeur polonais. L'action a perdu 30% cette semaine.
Mais oui, parce que le jeu n'est pas réussi sur les consoles.
C'est un jeu qui est arrivé trop tôt. Mais on le rappelle, on est dans un univers logiciel où il y a des possibilités de mise à jour. Je pense pour la PS4 et la Xbox One CQI, ça pourra pas aller plus loin. Mais
il paraît que c'est meilleur sur la PS4 Pro qui est sortie il y a 3 ans.
Exactement.
C'est un peu meilleur.
Exactement. Mais j'espère qu'il deviendra bon et aussi bon qu'il doit l'être avec le temps.
Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans un instant. On va attaquer notre dossier smartphone. Comment choisir son smartphone en cette fin d'année 2020? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? Raphaël sera épaulé de Nicolas Lelouch, journaliste à zeronet.com, qui nous rejoint dans un instant. A tout de suite.
RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
9h27, le retour de ce week-end des experts. Vie numérique avec Raphaël Grabli. Allez, on attaque notre dossier smartphone. Raphaël, et je pense qu'on va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Vous êtes peut-être, quelques jours de vous offrir peut-être un joli cadeau. Ou peut-être attendre que quelqu'un de votre famille vous offre un joli cadeau. C'est peut-être un smartphone. C'est le moment de faire le bon choix.
Oui, on s'est dit qu'on allait faire un point là en cette fin d'année sur tous les smartphones, parce qu'après on va rentrer sur la prochaine saison des smartphones, c'est-à-dire la prochaine génération qui va arriver assez rapidement d'ailleurs.
On va discuter avec Samsung.
On parle du 14 janvier, il me semble. Et on va se poser la question, quel smartphone choisir, à quel prix? Parce que les smartphones aujourd'hui, on a même des messages dans Direct Studio qui nous dit j'ai trouvé un super smartphone à 134€, nous dit Sony Stark, un Redmi 9. Et évidemment, ça monte à 1600 voire 2000 euros avec des smartphones pliables d'ailleurs. On va en parler aussi des smartphones pliables ou pliants. Avec notre ami Nicolas Lelouch. Salut Nico.
Salut Raphaël, comment ça va?
Eh ben ça va.
Salut Nicolas.
Merci Nico d'être avec nous. Déjà, toi, un petit retour d'expérience sur tous ces smartphones. Alors, je sais pas combien de temps t'as testé cette année. Je pense que ça doit être quoi, une 30-40 peut-être. On doit pas être loin. Qu'est-ce qui t'a marqué toi cette année comme principale évolution sur les smartphones?
Bah, ce qui m'a marqué cette année justement, c'est le manque d'évolution. Je vais peut-être te surprendre. Il y a deux raisons à ça. Déjà, je pense que la pandémie, elle a forcément joué contre l'innovation, dans le sens où c'est un petit peu compliqué pour un constructeur de sortir quelque chose de révolutionnaire si les gens ne l'achètent pas. Donc ils ont peut-être gardé pour l'année prochaine quelques nouveautés. Mais d'un autre côté, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de progrès sur la partie photo. Et les innovations qu'on a pu voir l'année dernière sur le haut de gamme, c'est-à-dire à plus de 800 euros, commencent à arriver aujourd'hui sur des téléphones autour des 400-500 euros. Donc c'est assez prometteur pour l'année suivante.
J'ai l'impression, je ne sais pas si tu penses la même chose, mais effectivement que cette gamme des smartphones à entre 400 et 700 euros, c'est beaucoup renforcé cette année. On a eu Apple qui a fait l'iPhone SE. On a Google qui a choisi de faire des smartphones haut de gamme, le Pixel 5, que personnellement j'aime beaucoup pour la photo, qui est exceptionnel.
Qui est l'un des smartphones de l'année, on peut le dire.
Pour moi, il est dans le top 3, mais il est à 650 euros. Donc c'est pas un smartphone à 1200 euros. Est-ce que aujourd'hui, finalement, le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas le bon smartphone à 600-700 euros?
Oui, absolument. D'autant plus qu'en fait, il y a une raison à ce succès des smartphones à 400-700 euros cette année, c'est qu'on a eu en fin 2019 la première puce 5G, justement milieu de gamme, et c'est peut-être la puce la plus intéressante du marché parce qu'elle offre des bonnes performances, une bonne gestion de l'autonomie et la 5G. Donc du coup, tous les constructeurs l'ont utilisé et donc on a eu des propositions très intéressantes cette année. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le bon prix en 2020 et faut peut-être pas dépenser plus pour l'instant.
Oui, d'ailleurs, c'était assez étonnant. On s'attendait plus à ce que les premières puces 5G arrivent pour des modèles très haut de gamme. Et puis finalement, d'un coup, ils ont tous sorti les très haut de gamme, mais aussi en même temps, les puces 5G pour les milieux de gamme. Et en fait, on a des smartphones 5G à 300-400 euros aujourd'hui.
Oui, le moins cher, il est à 270 euros en ce moment. C'est un smartphone chinois, c'est le Xiaomi Mi 10 T Lite. Et il y en aura d'autres en 2021. Je pense qu'on atteindra la barre des 200 euros sur la 5G. On en reparlera sûrement tout à l'heure.
Oui, il a fallu attendre quelques années pour atteindre la barre des 200 euros en 4G. D'ailleurs, justement, on va parler des smartphones d'entrée de gamme parce que c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui se vend le plus et c'est normal. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1000 euros dans un smartphone. Aujourd'hui, Nico, j'ai moins de 300 euros. Même peut-être moins si tu as. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix du marché à ce prix-là?
J'ai deux produits en tête sous les 300 euros et ça va être assez simple à retenir pour nos auditeurs parce qu'ils viennent de la même marque. Donc c'est la marque que je viens de citer, c'est Xiaomi qui s'écrit donc Xiaomi, X-I-A-O-M-I.
Eux, on a l'impression qu'ils sont toujours sur le rapport qualité-prix, ils sont sur le coup depuis 3-4 ans maintenant.
C'est vrai, hein.
Ouais, oui, c'est incroyable.
Ils sont vraiment excellents et pour le coup, sur l'entrée de gamme, ils ont réussi à tuer la concurrence et il n'y a pas vraiment de bons rivaux à Xiaomi. Enfin, pour moi, les téléphones Xiaomi à 200 euros, c'est à peu près ce que la concurrence fait à 300 ou 350 euros. Donc ça vaut vraiment le coup et si vous avez un petit budget, c'est les meilleurs produits. Donc les deux références que j'ai en tête, le Mi 10 T Lite qui est donc du coup un téléphone 5G qui coûte 299 euros. Donc celui-là pour le coup c'est un petit peu un pari d'avenir, c'est-à-dire que vous allez payer peut-être un petit peu plus que si vous auriez pris une version sans 5G, mais au moins vous êtes sûr que votre téléphone sera compatible avec le futur réseau. Et l'autre référence qui pour le coup est mon gros coup de cœur de l'année sur l'entrée de gamme, c'est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui coûte entre 230 et 270 euros aujourd'hui sur le marché. Il y a même des promotions, on peut le trouver plus bas. Et pour le coup, cet appareil est juste excellent. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on a l'impression d'avoir un appareil qui coûte le double.
C'est dingue, le Mi 10 T Lite. Alors le problème de Xiaomi, c'est les noms, hein, parce que franchement, c'est un peu imbitable. Mais quand on regarde, il est à 279. Effectivement, il a même un processeur Snapdragon 750. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est un processeur milieu de gamme assez solide, quoi, assez costaud.
Carrément.
C'est pas du tout un truc
avec Xiaomi, c'est qu'ils arrivent vraiment à casser les prix. C'est un peu, je pense, similaire à ce que tu disais tout à l'heure sur les ordinateurs. Je t'ai entendu avec Lenovo.
Oui.
C'est que comme Xiaomi a des dizaines et des dizaines de références sur le marché, ils achètent beaucoup de composants et ils peuvent du coup casser les prix assez facilement en récupérant des choses d'autres gammes.
Et d'ailleurs, j'en profite, hein, comme pour un ordinateur, je disais les 200 euros entre les 600 et les 800 euros sont les plus importants. J'aurais tendance à dire que les, si on le peut, toujours évidemment, j'ai envie de dire les 100 euros entre aller les 150 et 250 euros.
Ça vaut peut-être le coup de les rajouter.
Proportionnellement, c'est énorme. Hein,
ouais,
c'est
tout.
Mais si on peut mettre 250 euros plutôt que 150 euros dans un smartphone vraiment d'entrée de gamme, ça va changer considérablement les choses.
Justement, Nicolas, à ton avis, quel est le prix plancher aujourd'hui pour avoir un smartphone digne de ce nom?
À l'exception de Xiaomi qui propose des produits dignes de ce nom à un prix inférieur à 300 euros, je pense que c'est autour des 350 euros, 399 euros qu'on a vraiment des produits qui ne sont pas seulement bons mais qui sont durables. J'ai pas mal de références en tête, notamment chez Google, chez OnePlus, mais c'est ces produits-là qui vont vraiment avoir un bon rapport qualité-prix et je pense que dans 3 ans l'appareil sera encore fonctionnel alors que souvent sous ce prix c'est un petit peu plus fragile et ça risque de ralentir avec le temps et donc c'est peut-être un petit peu moins recommandable si vous voulez le garder longtemps.
Oui, parce qu'il y a des marques qui proposent des smartphones à moins de 100 euros, hein, 150 euros. Tu déconseilles ce type de smartphone?
Oui, je les déconseille. Je pense souvent, c'est ce que disait Raphaël il y a quelques secondes, qu'il vaut mieux peut-être économiser plus longtemps pour justement ou attendre peut-être une promotion et mettre les 100 euros supplémentaires pour atteindre le prix plancher des 250-300 euros plutôt qu'aller sur un produit pas cher à 150 euros, à moins de 100 euros, qui risque pour le coup de vous plaire pendant le premier mois d'utilisation et puis vous allez vous rendre compte que la qualité photo n'est pas du tout à la hauteur, que l'autonomie va s'effondrer et vous allez vite avoir envie de sortir et finalement, en l'espace de 3 ans, vous aurez changé 3 fois de téléphone et donc vous aurez dépensé largement les 300 euros d'un produit un petit peu meilleur.
Mais je pense qu'on vit un peu un âge d'or, entre guillemets, pour les amateurs de Xiaomi en France parce qu'en fait, comme ils essaient de s'implanter, ils sont très agressifs sur les prix et sur ces modèles-là, en fait, ils gagnent pas d'argent. C'est pour ça qu'ils sont moins chers que les autres aussi. C'est parce que non seulement ils achètent beaucoup plus de composants, mais ils font pas de marge ou quasiment rien. Donc c'est vrai qu'on en profite à des prix vraiment intéressants. Justement, tu parlais de Google, Nico, parce que moi cette année c'est Google qui m'a marqué parce que ils ont créé une gamme. Alors il y avait un smartphone Google qui s'appelle le Pixel qui sortait tous les ans, mais cette année ils ont créé une vraie gamme de smartphones avec le Pixel 4a qui est, je pense, le smartphone auquel tu faisais allusion pour le rapport qualité-prix. Est-ce que finalement c'est pas, alors j'allais dire le grand gagnant, c'est difficile parce que Google malheureusement ils vendent pas en quantité, c'est pas encore ça, ils arrivent pas encore à bien commercialiser leurs produits, c'est pas leur métier, ils sont en train d'apprendre. Mais par contre, en tant que client, en tant qu'utilisateur,
c'est vraiment une bonne affaire.
Est-ce que c'est pas le meilleur plan cette année?
C'est de loin le meilleur plan. C'est la marque la plus intéressante à suivre dans les mois et années qui viennent, je pense, parce qu'ils sont vraiment en train de proposer des produits très intéressants. Et c'est même la seule marque américaine avec Apple sur le marché aujourd'hui. Et donc, ils ont une proposition différente du marché asiatique. Et donc, ça nous convient bien plus à nous, utilisateurs européens, d'avoir des petits téléphones, d'avoir des produits forcément un petit peu moins compliqués à l'utilisation. Donc du coup, les Pixels sont vraiment d'excellents produits. Donc en effet, leur gamme, elle est super. Il y a le 4A qui coûte 349 euros, qui est excellent en photo et qui est tout petit. Donc ça, c'est génial.
Alors,
pour ceux qui adorent.
À ce prix-là, je précise, et pour l'avoir testé assez longtemps, à ce prix-là, on a juste l'un des meilleurs appareils photo du marché. Enfin, smartphone en photo du marché à 360 euros. Il faut juste se resituer.
Voilà, c'est incroyable s'ils arrivent à faire Google. Et après, si vous voulez monter en gamme, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, que ce soit pour vous pour offrir à Noël, deux produits, le Pixel 4a 5G à 499 euros. Vous l'avez compris, hein, c'est à peu près le même que le 4a, mais avec de la 5G. Et surtout, il a une autonomie absolument délirante. Il tient 3 jours sur une seule charge. Assez incroyable. Et enfin, si vous voulez vraiment... Mais ça, celui-là, je pense qu'il va plus se destiner aux amateurs de nouvelles technologies parce qu'il apporte pas vraiment de fonctions incroyables. C'est le Pixel 5 qui coûte 629 euros et qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques que les autres produits, mais avec un dos en aluminium, avec de la recharge sans fil. Donc c'est un petit peu plus gadget, on va dire. Mais en tout cas, les 4A et 4A 5G, c'est d'excellents rapports qualité-prix. Et je suis d'accord avec toi, Raphaël, c'est la marque qui m'a le plus marqué en 2020.
On va revenir dans un instant, il est 9h37, on aura Pierre au 3216 qui aimerait avoir un conseil. Il a un Samsung Galaxy S9, D'accord. Et il aimerait bien s'offrir un nouveau smartphone. On va essayer de l'aiguiller. Hein. Est-ce qu'il veut rester dans la gamme Samsung? Est-ce qu'il veut partir vers la concurrence? On va écouter la question de Pierre dans un instant. On parle smartphone. On vous donne des conseils pour bien choisir peut-être en cette fin d'année votre nouveau smartphone. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Quasiment 10h moins le quart, le week-end des experts, la vie numérique. On est là jusqu'à 10h avec Raphaël Grabli, Nicolas Leloup, journaliste à 01net, qui nous donne un maximum de conseils pour bien choisir son smartphone à quelques jours de Noël. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu d'argent pour se faire plaisir.
Oui, et puis il y a une marque dont il faut qu'on parle, forcément.
Bien sûr.
C'est Samsung, hein, qui va arriver dans l'actualité, on va en reparler, mais on a un auditeur d'ailleurs qui a un Samsung et qui aimerait peut-être en changer.
C'est Pierre qui est là. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Raphaël.
Bonjour Pierre.
Bonjour François, bonjour Nicolas.
Salut.
Alors,
Pierre.
Alors, j'avais une question. J'ai un S9 qui arrive tout doucement en fin de vie. Je souhaiterais le remplacer par un téléphone avec des caractéristiques plutôt haut de gamme, parce que j'y suis habitué. J'ai fait une étude de marché rapide. Je pense pas que ça vaille le coup de mettre aux alentours de 1000 euros cette année. De ce qui ressort de ce que j'ai vu, alors j'hésitais plutôt entre soit le Pixel, soit le Samsung S20 FE. Alors j'aimerais avoir votre avis.
Ah, alors là je vais laisser Nico parler, parce que ce S20 FE, il faut qu'on en parle.
Le S9 à quel âge, en fait? Il a quoi, 3 ans, non? C'est
il
ça?
Il a 3 ans, oui.
Pierre?
Oui, oui, tout à fait, mais c'est matériellement surtout, il vit au quotidien, quoi. Donc, à force de.
Oui, il a été bien sollicité.
Il a un peu voilà. Vie, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, on précise, il n'a pas 11 ans, puisqu'on est au S20 et qu'on était le S9. Il n'y a pas, on sait que Samsung a fait S9, S10 et S20. On précise, hein. Ouais. Il n'a pas 11 ans. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de ce S20 FE qui est sorti là à la rentrée? On le voit beaucoup d'ailleurs en pub à la télé et qui finalement pas si cher que ça?
Oui, bonjour Pierre. Vous avez fait une très bonne sélection parce que sur 3 produits que je pensais vous recommander, il y en a 2. Donc bravo. Mais du coup, donc le Galaxy S20 FE, il est bien pour vous, surtout si vous êtes déjà un fan de Samsung et que vous êtes habitué à Samsung. Et il a une particularité en fait, c'est que Samsung, qui a l'habitude de faire des smartphones haut de gamme très chers et des smartphones milieu de gamme un petit peu moins bien à un prix plus abordable, cette année ils ont tenté de faire ce qu'on appelle un flagship killer dans le marché, c'est-à-dire un smartphone haut de gamme à prix cassé. Et ce S20 FE, il coûte 759 € dans sa version 5G et il coche à peu près toutes les cases. Je dis souvent de lui que ce smartphone n'est le meilleur en rien, mais qu'il est très bon en tout. Dans le sens où vous avez un excellent écran lumineux OLED, vous avez une très bonne batterie, vous avez de la compatibilité 5G, vous avez peut-être un des meilleurs appareils photo du marché, de la recharge sans fil, bref, on a vraiment tout sur cet appareil. Donc si vous aimez Samsung, je pense que ça peut être un très bon choix. Je pense aussi à un prix inférieur au OnePlus 8T, que vous allez trouver autour de 600 €, qui du coup sera 150 € moins cher que le Galaxy S20 FE, mais ces deux appareils sur la catégorie des smartphones haut de gamme, c'est peut-être mes deux choix de 2020.
Oui, Pierre, allez-y, hein, discutez avec Nico, profitez-en.
Oui, en effet, c'est vraiment ce que je disais. Alors, j'ai pas un amour particulier pour Samsung. Donc, c'est vraiment entre ces produits. Si, par exemple, vous aviez à en prendre un par affinité, vous iriez plutôt vers lequel?
Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je mettrais les 150 € supplémentaires pour le Galaxy S20 FE. Je pense que vous avez avec Samsung quand même une expérience, un confort, un vrai service client derrière. Et que surtout en venant d'un Galaxy S9, vous risquez pas d'être dépaysé et que c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, j'insiste sur une chose, hein. Il y a deux modèles du S20 FE, le modèle 4G, le modèle 5G. Au-delà de la question de savoir est-ce que vous avez besoin de la 5G, le modèle 5G a un meilleur processeur et dispose d'une meilleure autonomie. Donc, il y a absolument aucune hésitation là-dessus. Si vous prenez le S20 FE, prenez le modèle 5G.
Donc, il y a 100 € de plus, hein, c'est ça, hein,
100 Nicolas. Donc, c'est 750. Après, il y a sûrement des promos aussi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a des promos, donc je pense que vous l'aurez à moins de 750.
Et on précise, le S20 FE aussi, enfin je trouve, hein, est meilleur en photo quand même, assez significativement que le OnePlus. OnePlus, j'adore ce téléphone, mais le S20 FE est quand même excellent en photo, il me semble.
Absolument, oui. On a le même appareil photo que sur un Galaxy S20 à 1000 €. Et donc, c'est pour dire à quel point c'est un bon rapport.
Et en plus, il y a plein de couleurs sympas. Enfin, c'est un smartphone fun. Hein.
À mon avis, il fait un carton celui-là. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour en vendre. À mon avis, il doit bien marcher. Nico, justement, je voulais rebondir sur les smartphones 5G. Toi qui testes la 5G à Nice, puisqu'il y a la 5G, il me semble, Bouygues Télécom, alors Orange et SFR, il y a les trois. Est-ce que aujourd'hui, avoir un smartphone 5G dans une zone couverte évidemment par la 5G, avec un abonnement 5G évidemment, est-ce que ça change les choses?
Alors je vais vous répondre en deux points. Est-ce que la 5G est vraiment révolutionnaire et va changer votre vie? Non, absolument pas. Maintenant, est-ce qu'elle va l'améliorer? Et c'est peut-être là que c'est plus intéressant, dans le sens où en soi, vous n'allez pas vraiment voir la différence entre la 5G et de la bonne 4G aujourd'hui. Ça va prendre plusieurs années avant d'arriver. Maintenant, ce qu'il se passe si vous avez un téléphone éligible 5G et un forfait 5G, c'est que quand tout le monde est connecté sur une antenne 4G et que donc du coup le réseau est saturé, et ben vous allez avoir presque l'antenne pour vous tout seul, parce qu'il y a forcément moins de monde sur la 5G pour l'instant. Donc ça va vous permettre de profiter d'une meilleure qualité de réseau que les autres personnes qui n'ont pas encore un téléphone 5G. Donc pour l'instant, j'ai plutôt tendance à vous dire que si vous devez choisir, prenez un forfait 5G, prenez un téléphone 5G.
Est-ce qu'on est encore tout seul, quoi?
Parce qu'on est encore tout seul et parce que en réalité, il vaut mieux avoir. Personne vous demande de choisir entre la 4G et la 5G. Si vous avez un appareil 5G, vous avez accès aux deux, donc vous avez accès à tout le spectre télécom. Donc c'est une meilleure chose. Maintenant, je ne veux pas mentir ou induire les gens en erreur en disant que la 5G est révolutionnaire. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc, est-ce que voient mes tests pour l'instant, c'est que les différences sont.
Donc si je résume, c'est ça ne sert à rien de changer de smartphone pour acheter un smartphone 5G. Si on a le choix à choisir, vaut mieux prendre un 5G.
Voilà. Si on est dans cette étape de changement. Tiens, à noter qu'on vous a fait une émission spéciale 5G la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en replay sur l'appli RMC. On recevait le directeur général de Bouygues Télécom et on apprenait beaucoup de choses sur la couverture, sur le coût de la 5G, etc. à retrouver donc sur l'appli RMC. On a Aïk qui est là. Je ne sais pas si on prononce Aïk, j'en suis désolé.
Très bien,
si
c'est Aïk, c'est parfait.
Bonjour et bienvenue.
Alors, moi j'ai une petite question. Je suis habitué d'avoir des Sony. Actuellement j'ai une Xperia Z5 Premium parce que j'aime bien leur qualité de photo. Et donc elle date un petit peu maintenant. Donc j'aime bien les renouveler tous les 5 ans vu les tarifs des appareils photo des smartphones plutôt. Donc je cherche un appareil smartphone avec la meilleure qualité photo qui existe sur le marché. Il y a le Z5, il y a le Z. Non, ça s'appelle pas le Z, c'est le Xperia 5.2 ou le 1.2.
Oui.
1-2, oui, comme ça. Je sais pas si je prononce bien parce qu'ils ont mis 2.
Oui, c'est ça, c'est juste que le nom est pourri, mais oui, c'est ça.
Voilà, exactement, on confirme. Et donc, comparé par rapport à ce que je viens de comprendre dans l'émission, le Pixel est pas mal comme appareil photo aussi. Bien sûr, couverture 5G, batterie qui tient longtemps, etc.
Donc, et quel est votre budget?
Est-ce que c'est bien comme appareil le Sony?
Et quel est votre budget?
Le budget, vu que j'achète tous les 5 ans, je peux aller jusqu'à 800, 900.
D'accord, c'est un bon budget.
C'est un bon budget. Ouais.
Je vais laisser Nico répondre peut-être en précis. Enfin, moi, Sony, je recommanderais plus tellement. Mais
ah bon?
Non, okay. Je trouve qu'ils sont trop. C'est beaucoup trop cher pour ce que
Nico,
c'est.
Nico, qu'est-ce que
mais je laisse répondre Nico.
Oui, déjà le vrai problème de Sony aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus tout petits sur le marché. Et quand un acteur est tout petit, bah logiquement, il entretient moins ses appareils. Il va y avoir forcément un peu moins de mises à jour et moins d'attention des développeurs d'applications pour les smartphones Sony. Après, si vous aimez vraiment Sony, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de Sony et je comprends parce que leurs produits sont assez uniques sur le marché. Je recommanderais pas le Xperia 1-2, mais plutôt le Xperia 5-2, qui est celui qui est un petit peu moins cher, mais qui a surtout une meilleure autonomie. Donc en soi, pourquoi pas, l'écartez pas. Et si vous aimez vraiment Sony, c'est un bon produit qui a une bonne qualité photo.
Mais en photo, il est moins bon que des smartphones beaucoup beaucoup moins chers quand même.
C'est ça, il est moins bon. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mauvais. Je trouve qu'il y a eu un vrai rattrapage de Sony en 2020. Ils sont meilleurs que les années précédentes. Vous l'avez dit vous-même, Mike, le Pixel 5, c'est pour moi la référence en photo aujourd'hui et il est supérieur en tout au smartphone de Sony et surtout moins cher puisque vous l'aurez à 629€. Et oui. avec tous les avantages qu'il y a d'avoir un smartphone Google, à savoir la compacité, l'autonomie et surtout, vous allez avoir plein de mises à jour logicielles en premier, c'est-à-dire qu'en août prochain, vous aurez le nouvel Android. En août 2022, vous aurez le nouvel Android. En août 2023, pareil. Oui. Alors qu'avec un autre smartphone Android,
il faudra attendre plusieurs mois.
Mises à jour. Donc c'est un téléphone qui va. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui garde les téléphones longtemps. eh bien, vous êtes typiquement la cible du Pixel parce que vous allez avoir un téléphone qui va s'améliorer pendant 3 ou 4 ans. Et ça, c'est quand même un plus, surtout qu'il est vraiment excellent en photo.
Typiquement, on parle de la durabilité. Très rapidement, Nico, on nous parle parfois du Fairphone. C'est ce smartphone qui est réparable. Qu'est-ce que tu en penses de ce Fairphone? C'est le smartphone qui se présente comme écolo et durable.
Malheureusement, je pense que le concept du Fairphone est très bon, mais qu'il n'est pas du tout réaliste sur le marché du smartphone, où tout évolue très vite, où il faut avoir des composants de dernière génération, et où en fait, le Fairphone, justement pour des raisons écologiques, utilise des composants qui sont souvent déjà obsolètes avant même de sortir, est assez cher, et du coup, je vous donne un exemple tout bête, on a une batterie qui est amovible sur le Fairphone, donc ce qui permet techniquement de changer de batterie plus facilement. Le problème, c'est que la batterie du Fairphone, elle est à 2 à 3 fois inférieure à la batterie d'un smartphone normal. Donc en fait, il vous faut 3 batteries pour avoir une aussi bonne autonomie.
Oui, donc c'est contre-productif.
Exactement.
Donc, c'est encore balbutiant comme concept, hein, on a l'impression.
Bonne, mais j'ai plutôt tendance.
Puis il est cher, il est à 500 euros, il me semble.
C'est ça, complètement. J'ai plutôt tendance à dire qu'un iPhone SE ou même un Google Pixel, qui sont des smartphones qui vont avoir beaucoup de mises à jour et qui sont longtemps pris en charge par leur constructeur.
Ils sont plus durables, finalement.
Samsung, ils sont peut-être plus durables. Après, il reste toute la question éthique de l'origine des composants, de la fabrication. Et là, c'est sûr que je ne peux pas défendre les grosses entreprises alors que Fairphone est un petit peu plus clean.
Merci Nicolas Lelouch, donc journaliste à 01net.com, que vous pouvez retrouver aussi très régulièrement sur la chaîne 01 TV, hein, chaîne dédiée à la tech, que vous retrouvez sur 01nettv.com, sur YouTube et sur les box aussi.
On va parler, on va faire un petit best-of de tous nos meilleurs produits de l'année. Tiens, on va faire une sélection plus globale. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, s'ils ont des coups de cœur cette année aussi, à nous en parler pour qu'on puisse un peu échanger sur ces produits coups de cœur avant
le best-of de l'année 2020.
Le best-of tech de l'année 2020.
Raphaël, à la semaine prochaine.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.